Chapitre 10. Les carrosses du roi la possédaient. Un murmure criard dans le lointain, mais qui devint plus grave et plus ample en se rapprochant, fit dresser l'oreille à Gilbert, qui sentit tout à coup son corps se hérisser sous un frisson aigu. On criait « Vive le roi !» C'était encore l'usage alors. Une nuée de chevaux hennissants, dorés et couverts de pourpre, s'élança sur la chaussée. C'étaient les mousquetaires, les gendarmes et les Suisses à cheval. Gilbert aperçut un cordon bleu, une tête couverte et majestueuse. Il vit l'éclair froid et pénétrant du regard royal, devant lequel tous les fronts s'inclinaient et se découvraient. Fasciné, immobile, enivré, pantelant, il oublia d'ôter son chapeau. Un coup violent le tira de son extase. Son chapeau venait de rouler à terre. Il fit un bond, ramassa son chapeau, releva la tête et reconnut le neveu du bourgeois qui le regardait avec ce sourire narquois particulier aux militaires. « Eh bien, lui dit-il, on n'ôte pas son chapeau au roi ?» Gilbert pâlit, regarda son chapeau couvert de poussière et répondit « C'est la première fois que je vois le roi, monsieur, et j'ai oublié de saluer, c'est vrai, mais je ne savais pas. » « Vous ne saviez pas ?» dit le soudard en fronçant le sourcil. Gilbert craignit qu'on ne le chassât de cette place où il était si bien pour voir André. L'amour qui bouillonnait dans son cœur brisa son orgueil. « Excusez-moi, dit-il, je suis de province. » « Et vous êtes venu faire votre éducation à Paris, mon petit bonhomme ?»« Oui, monsieur, » répondit Gilbert, dévorant sa rage. « Eh bien, puisque vous êtes en train de vous instruire, » dit le sergent en arrêtant la main de Gilbert, qui s'apprêtait à remettre son chapeau sur sa tête, « apprenez encore ceci, c'est qu'on salue Madame la Dauphine comme le roi, messeigneurs les princes comme Madame la Dauphine. C'est qu'on salue enfin toutes les voitures où il y a des fleurs de lys. Connaissez-vous les fleurs de lys, mon petit, ou faut-il vous les faire connaître ?»« Inutile, monsieur, » dit Gilbert, « je les connais. C'est bien heureux, » grommela le sergent. Les voitures royales passèrent. La file se prolongeait. Gilbert regardait avec des yeux tellement avides qu'ils en semblaient hébétés. Successivement, en arrivant en face de la porte de l'abbaye, les voitures s'arrêtaient, les seigneurs de la suite en descendaient, opération qui, de 5 minutes en 5 minutes, occasionnait un mouvement de halte sur toute la ligne. À l'une de ces haltes, Gilbert sentit comme un feu brûlant qui lui eut traversé le cœur. Il eut un éblouissement pendant lequel toutes choses s'effacèrent à ses yeux et un tremblement si violent s'empara de lui qu'il fut forcé de se cramponner à sa branche pour ne pas tomber. C'est qu'en face de lui, à 10 pas au plus, dans l'une de ses voitures à fleurs de lys que le sergent lui avait recommandé de saluer, il venait d'apercevoir la resplendissante, la lumineuse figure d'André, vêtue toute de blanc, comme un ange ou comme un fantôme. Il poussa un faible cri, puis, triomphant de toutes ces émotions qui s'étaient emparées de lui à la fois, il commanda à son cœur de cesser de battre, à son regard de se fixer sur le soleil. Et la puissance du jeune homme sur lui-même était si grande qu'il y réussit. De son côté, André, qui voulait voir pourquoi les voitures avaient cessé de marcher, André se pencha hors de la portière et, en étendant autour d'elle son beau regard d'azur, elle aperçut Gilbert et le reconnut. Gilbert se doutait qu'en l'apercevant, André allait s'étonner, se retourner, parler à son père, assis dans la voiture à ses côtés. Il ne se trompait point. André s'étonna, se retourna, et appela sur Gilbert l'attention du baron de Tavernet, qui, orné de son grand cordon rouge, posait fort majestueusement dans le carrosse du roi. « Gilbert !» s'écria le baron réveillé comme en sursaut. « Gilbert, ici, et qui donc aura soin de Mahon, là-bas » Gilbert entendit parfaitement ces paroles. Il se mit aussitôt à saluer, avec un respect étudié, André et son père. Il lui fallut toutes ses forces pour accomplir ce salut. « C'est pourtant vrai !» s'écria le baron en apercevant notre philosophe. « C'est ce drôle-là, en personne !» L'idée que Gilbert fût à Paris se trouvait si loin de son esprit qu'il n'avait pas voulu croire d'abord les yeux de sa fille et qu'il avait en ce moment encore toutes les peines du monde à en croire ses propres yeux. Quant au visage d'André, que Gilbert observait alors avec une attention soutenue, il n'exprimait qu'un calme parfait après un léger nuage d'étonnement. Le baron, penché hors de la portière, appela Gilbert du geste. Gilbert voulut aller à lui, le sergent l'arrêta. « Vous voyez bien que l'on m'appelle, dit-il. « Où cela ? De cette voiture ?» Les regards du sergent suivirent la direction indiquée par le doigt de Gilbert et se fixèrent sur le carrosse de monsieur de Tavernet. « Permettez, sergent, dit le baron, je voudrais parler à ce garçon, deux mots seulement. » « Quatre, monsieur, quatre, dit le sergent, vous avez du temps de reste, on lit une harangue sous le porche, vous en avez pour une bonne demi-heure, passez, jeune homme. » « Venez ça, drôle !» dit le baron à Gilbert, qui affectait de marcher de son pas ordinaire. « Dites-moi, par quel hasard, quand vous devriez être à Tavernet, on vous trouve à Saint-Denis ?» Gilbert salua une seconde fois André et le baron et répondit « Ce n'est point le hasard, monsieur, qui m'amène ici, c'est l'acte de ma volonté. » « Comment, de votre volonté, maroufle, auriez-vous une volonté, par hasard ?»« Pourquoi pas ?» Tout homme libre a le droit d'en avoir une. Tout homme libre, ah ça, vous croyez donc libre, petit malheureux ? Oui, sans doute, puisque je n'ai enchaîné ma liberté à personne. Ah, voilà sur ma foi un plaisant maraud, s'écria monsieur de Tavernet, interdit de l'aplomb avec lequel parlait Gilbert. Quoi, vous à Paris ? Et comment venu, je vous prie, et avec quelles ressources, s'il vous plaît ? À pied, dit laconiquement Gilbert. « À pied ?» répéta André avec une certaine expression de pitié. « Et que viens-tu faire à Paris ? Je te le demande !» s'écria le baron. « Mon éducation d'abord, ma fortune ensuite. »« Ton éducation ? J'en suis sûr. Ta fortune ? Je l'espère. Et que fais-tu en attendant ? Tu mendies ?»« Mendier ?» fit Gilbert avec un superbe dédain. « Tu voles alors ?» « Monsieur, dit Gilbert avec un accent de fermeté fier et sauvage qui fixa un instant sur l'étrange jeune homme l'attention de mademoiselle de Tavernet, est-ce que je vous ai jamais volé ? Que fais-tu alors avec tes mains de fainéant ? Ce que fait un homme de génie auquel je veux ressembler, ne fût-ce que par ma persévérance, répondit Gilbert, je copie de la musique. » André tourna la tête de son côté. « Vous copiez de la musique, dit-elle ? Oui, mademoiselle. » « Vous la saviez donc, ajouta-t-elle dédaigneusement, et du même ton qu'elle lui dit, vous mentez. « Je connais mes notes, et c'est assez pour être copiste, répondit Gilbert. « Et où diable les as-tu apprises, tes notes, drôle ?»« Oui, fit en souriant André. « Monsieur le baron, j'aime profondément la musique, et comme tous les jours mademoiselle passait une heure ou deux à son clavecin, je me cachais pour écouter. « Fainéant !» J'ai d'abord retenu les airs, puis comme ces airs étaient écrits dans une méthode, j'ai peu à peu, et à force de travail, appris à lire dans cette méthode. Dans ma méthode, fit André au comble de l'indignation, que vous osiez toucher à ma méthode. Non, mademoiselle, jamais je ne me fusse permis cela, dit Gilbert, mais elle restait ouverte sur votre clavecin, tantôt à une place, tantôt à une autre, je n'y touchais pas, j'essayais de lire, voilà tout. Mes yeux ne pouvaient en salir les pages. « Vous allez voir, dit le baron, que ce coquin-là va nous annoncer tout à l'heure qu'il joue du piano, comme Haydn. »« J'en saurais jouer probablement, dit Gilbert, si j'avais posé mes doigts sur les touches. » Et André, malgré elle, jeta un second regard sur ce visage, animé par un sentiment dont rien ne peut donner l'idée, si ce n'est le fanatisme avide du martyr. Mais le baron, qui n'avait point dans l'esprit la calme et intelligente lucidité de sa fille, avait senti s'allumer sa colère en songeant que ce jeune homme avait raison et que l'on avait eu avec lui en le laissant à Tavernet en compagnie de Mahon des torts d'inhumanité. Or, on pardonne difficilement à un inférieur le tort dont il peut nous convaincre, de sorte que, s'échauffant à mesure que sa fille s'adoucissait, « Ah, brigando ! » s'écria-t-il, « tu désertes, tu vagabondes, et lorsqu'on te demande compte de ta conduite, tu as recours à des balivernes comme celles que nous venons d'entendre ? Eh bien, comme je ne veux pas que, par ma faute, le pavé du roi soit embarrassé de filous et de bohèmes, André fit un mouvement pour calmer son père. Elle sentait que l'exagération excluait la supériorité. Mais le baron écarta la main protectrice de sa fille et continua. « Je te recommanderai à monsieur de Sartine et tu iras faire un tour à Bicêtre, mauvais garnement de philosophe !» Gilbert fit un pas de retraite, enfonça son chapeau et pâle de colère. « Monsieur le baron, dit-il, apprenez que, depuis que je suis à Paris, j'ai trouvé des protecteurs qui lui font faire antichambre à votre monsieur de Sartine. »« Ah, Ouida ! » s'écria le baron. « Eh bien, si tu échappes à Bicêtre, tu n'échapperas point aux étrivières. André, André, appelez votre frère qui est là tout près. » André se baissa vers Gilbert et lui dit impérieusement, « Voyons, monsieur Gilbert, retirez-vous. »« Philippe, Philippe !» cria le vieillard. « Retirez-vous, » dit André au jeune homme qui demeurait muet et immobile à sa place, comme dans une contemplation extatique. Un cavalier, attiré par l'appel du baron, accourut à la portière du carrosse. C'était Philippe de Tavernet avec un uniforme de capitaine. Le jeune homme était tout à la fois joyeux et splendide. « Tiens, Gilbert, » dit-il avec bonhomie en reconnaissant le jeune homme. « Gilbert, ici, ah, bonjour Gilbert. Que désirez-vous de moi, mon père ?» « Bonjour, monsieur Philippe, » répondit le jeune homme. « Ce que je désire, » s'écria le baron, pâle de fureur, « c'est que tu prennes la gaine de ton épée et que tu en châties ce drôle-là. »« Mais qu'a-t-il fait ?» demanda Philippe en regardant tour à tour et avec un étonnement croissant la fureur du baron et l'effrayante impassibilité de Gilbert. « Il a fait !» s'écria le baron. « Frappe, Philippe, comme sur un chien !» Tavernet se retourna vers sa sœur. « Qu'a-t-il donc fait, André ? Dites, vous aurait-il insulté ?»« Moi ? » s'écria Gilbert. « Non, rien, Philippe, non, » répondit André. « Il n'a rien fait, mon père s'égare. Monsieur Gilbert n'est plus à notre service, il a donc parfaitement le droit d'être où il lui plaît d'aller. Mon père ne veut pas comprendre cela, et en le retrouvant ici, il s'est mis en colère. » Et c'est là tout ? Demanda Philippe. Absolument, mon frère, et je ne comprends rien au courroux de monsieur de Tavernet, surtout à un pareil propos, et quand choses et gens ne méritent même pas un regard. Voyez, Philippe, si nous avançons. Le baron se tut, dompté par la sérénité toute royale de sa fille. Gilbert baissa la tête, écrasé par ce mépris. Il y eut un éclair qui passa à travers son cœur et qui ressemblait à celui de la haine. Il eût préféré un coup mortel de l'épée de Philippe et même un coup sanglant de son fouet. Il faillit s'évanouir. Par bonheur, à ce moment, la harangue était achevée. Il en résulta que les carrosses reprirent leur mouvement. Celui du baron s'éloigna peu à peu, d'autres le suivirent. André s'effaçait comme dans un rêve. Gilbert demeura seul, prêt à pleurer, prêt à rugir, incapable, il le croyait du moins, de soutenir le poids de son malheur. Alors une main se posa sur son épaule. Il se retourna et vit Philippe qui, ayant mis pied à terre et donné son cheval à tenir un soldat de son régiment, revenait tout souriant à lui. « Voyons, qu'est-il donc arrivé, mon pauvre Gilbert, et pourquoi es-tu à Paris ?» Ce ton franc et cordial toucha le jeune homme. « Eh, monsieur, dit-il avec un soupir arraché à son stoïcisme farouche, qu'eusse-je fait à Tavernet, je vous le demande, j'y fusse mort de désespoir, d'ignorance et de faim. » Philippe tressaillit, car son esprit impartial était frappé, comme l'avait été André, du douloureux abandon où l'on avait laissé le jeune homme. « Et tu crois donc réussir à Paris, pauvre enfant, sans argent, sans protection, sans ressources ?» Je le crois, monsieur, l'homme qui veut travailler meurt rarement de faim, là où il y a d'autres hommes qui désirent ne rien faire. » Philippe tressaillit à cette réponse. Jamais il n'avait vu dans Gilbert qu'un familier sans importance. « Manges-tu au moins ? » dit-il. « Je gagne mon pain, monsieur Philippe, et il n'en faut pas davantage à celui qui ne s'est jamais fait qu'un reproche, c'est de manger celui qu'il ne gagnait pas. » « Tu ne dis pas cela, je l'espère, pour celui qu'on t'a donné à Tavernet, mon enfant. Ton père et ta mère étaient de bons serviteurs du château, et toi-même te rendais facilement utile. Je ne faisais que mon devoir, monsieur. »« Écoute, Gilbert, continua le jeune homme, tu sais que je t'ai toujours aimé, je t'ai toujours vu autrement que les autres. Est-ce à tort ? Est-ce à raison ? L'avenir me l'apprendra. » Ta sauvagerie m'a paru délicatesse, ta rudesse, je l'appelle fierté. Ah, monsieur le chevalier, fit Gilbert, respirant, je te veux donc du bien, Gilbert. Merci, monsieur. J'étais jeune comme toi, malheureux comme toi, dans ma position. De là vient peut-être que je t'ai compris. La fortune, un jour, m'a souri. Eh bien, laisse-moi t'aider, Gilbert, en attendant que la fortune te sourie à ton tour. Merci, merci, monsieur. Que veux-tu faire? Voyons, tu es trop sauvage pour te mettre en condition. Gilbert secoua la tête avec un méprisant sourire. Je veux étudier, dit-il. Mais pour étudier, il faut des maîtres, et pour payer des maîtres, il faut de l'argent. J'en gagne, monsieur. Tu en gagnes, dit Philippe en souriant. Et combien gagnes-tu, voyons? Je gagne 25 sous par jour, monsieur, et j'en puis gagner 30 ou même 40. Mais c'est tout juste ce qu'il faut pour manger. Gilbert sourit. Voyons, je m'y prends mal peut-être pour t'offrir mes services. Vos services? À moi, monsieur Philippe? Mais sans doute, mes services, rougis-tu de les accepter? Gilbert ne répondit point. Les hommes sont ici-bas pour s'entraider, continua Maison Rouge. Ne sont-ils pas frères? Gilbert releva la tête et attacha ses yeux si intelligents sur la noble figure du jeune homme. Ce langage t'étonne, dit Philippe. Non, monsieur, dit Gilbert, c'est le langage de la philosophie, seulement je n'ai pas l'habitude de l'entendre chez des gens de votre condition. Ah, tu as raison, et cependant ce langage est celui de notre génération. Le dauphin lui-même partage ses principes. Voyons, ne fais pas le fier avec moi, continua Philippe, et ce que je t'aurais prêté, tu me le rendras plus tard. Qui sait si tu ne seras pas un jour un Colbert ou un Vauban ou un Tronchin, dit Gilbert. Soit, voici ma bourse, partageons. Non, monsieur, dit l'indomptable jeune homme, touché sans vouloir en convenir de cette admirable expansion de Philippe. Merci, je n'ai besoin de rien. Seulement, je vous suis reconnaissant, bien plus que si j'eusse accepté votre offre, soyez-en sûr. Et là-dessus, saluant Philippe stupéfait, il regagna vivement la foule dans laquelle il se perdit. Le jeune capitaine attendit plusieurs secondes, comme s'il ne pouvait en croire ni ses yeux ni ses oreilles. Mais voyant que Gilbert ne reparaissait point, il remonta sur son cheval et regagna son poste. Tout le fracas de ses chars retentissants, tout le bruit de ses cloches chantant à pleine volée, tous ces roulements de tambours joyeux, toute cette majesté, reflet des majestés du monde perdu pour elle, glissèrent sur l'âme de Madame Louise et vinrent expirer comme le flot inutile au pied des murs de sa cellule. Quand le roi fut parti, après avoir inutilement essayé de rappeler, en père et en souverain, c'est-à-dire par un sourire auquel succédèrent des prières qui ressemblaient à des ordres, sa fille au monde, quand la dauphine, que frappa du premier coup d'œil cette grandeur d'âme véritable de son auguste tante, eut disparu avec son tourbillon de courtisans, la supérieure des carmélites fit descendre les tentures, enlever les fleurs, détacher les dentelles. De toute la communauté encore émue, elle seule ne sourcilla point quand les lourdes portes du couvent, un instant ouvertes sur le monde, roulèrent pesamment et se refermèrent avec bruit entre le monde et la solitude. Puis elle fit venir la trésorière. « Pendant ces 2 jours de désordre, demanda-t-elle, les pauvres ont-ils reçu les aumônes accoutumées ?»« Oui, madame. »« Les malades ont-ils été visités comme de coutume ?»« Oui, madame. » « A-t-on congédié les soldats un peu rafraîchis ?»« Tous ont reçu le pain et le vin que madame avait fait préparer. »« Ainsi, rien n'est en souffrance dans la maison. »« Rien, madame. » Madame Louise s'approcha de la fenêtre et aspira doucement la fraîcheur embaumée qui montait du jardin sur l'aile humide des heures voisines de la nuit. La trésorière attendait respectueusement que l'auguste abbesse donnât un ordre ou un congé. Madame Louise, Dieu seul sait à quoi songeait la pauvre recluse royale en ce moment, Madame Louise effeuillait des roses à hautes tiges qui montaient jusqu'à sa fenêtre et des jasmins qui tapissaient les murailles de la cour. Tout à coup, un violent coup de pied de cheval ébranla la porte des communs et fit tressaillir la supérieure. « Qui donc est resté à Saint-Denis de tous les seigneurs de la cour ?» demanda Madame Louise. « Son éminence, le cardinal de Rohan, madame. » Les chevaux sont-ils donc ici? Non, madame, ils sont au chapitre de l'abbaye où il passera la nuit. Mais qu'est-ce donc que ce bruit alors? Madame, c'est le bruit que fait le cheval de l'étrangère. Quelle étrangère? Demanda madame Louise, cherchant à rappeler ses souvenirs. Cette italienne qui est venue hier soir demander l'hospitalité à son Altesse. Ah, c'est vrai, où est-elle? Dans sa chambre ou à l'église? Qu'a-t-elle fait depuis hier? Depuis hier, elle a refusé toute nourriture, excepté le pain, et toute la nuit, elle a prié dans la chapelle. Quelque grande coupable, sans doute, dit la supérieure, fronçant le sourcil. Je l'ignore, madame, elle n'a parlé à personne. Quelle femme est-ce? Belle, et d'une physionomie douce et fière à la fois. Ce matin, pendant la cérémonie, où se tenait-elle? Dans sa chambre, près de sa fenêtre, où je l'ai vue, abritée derrière ses rideaux, fixée sur chaque personne un regard plein d'anxiété, comme si, dans chaque personne qui entrait, elle eût craint un ennemi. Quelque femme de ce pauvre monde où j'ai vécu, où j'ai régné, faites entrer. La trésorière fit un pas pour se retirer. Ah, sait-on son nom? Demanda la princesse. Lorenza Feliciani. Je ne connais personne de ce nom, dit madame Louise, rêvant. N'importe, introduisez cette femme. La supérieure s'assit dans un fauteuil séculaire. Il était de bois de chêne, avait été sculpté sous Henri II et avait servi aux 9 dernières abbesses des Carmélites. C'était un tribunal redoutable devant lequel avaient tremblé bien des pauvres novices prises entre le spirituel et le temporel. La trésorière entra un moment après, amenant l'étrangère au long voile que nous connaissons déjà. Madame Louise avait l'œil perçant de la famille. Cet œil fut fixé sur Lorenza Feliciani du moment où elle entra dans le cabinet, mais elle reconnut dans la jeune femme tant d'humilité, tant de grâce, tant de beauté sublime, elle vit enfin tant d'innocence dans ses grands yeux noirs noyés de larmes encore récentes, que ses dispositions envers elle, d'hostiles qu'elles étaient, devinrent bienveillantes et fraternelles. Approchez, madame, dit la princesse, et parlez. La jeune femme fit un pas en tremblant et voulut mettre un genou en terre. La princesse la releva. N'est-ce pas vous, madame, dit-elle, qu'on appelle Lorenza Feliciani? Oui, madame. Et vous désirez me confier un secret? Oh, j'en meurs de désir. Mais pourquoi n'avez-vous pas recours au tribunal de la pénitence? Je n'ai pouvoir que de consoler, moi. Un prêtre console et pardonne. Madame Louise prononça ces derniers mots en hésitant. Je n'ai besoin que de consolation, madame, répondit Lorenza, et d'ailleurs c'est à une femme seulement que j'oserais dire ce que j'ai à vous raconter. C'est donc un récit bien étrange que celui que vous allez me faire. Oui, bien étrange, mais écoutez-moi patiemment, madame, c'est à vous seule que je puis parler, je vous le répète, parce que vous êtes toute puissante et qu'il me faut presque le bras de Dieu pour me défendre. Vous défendre, mais on vous poursuit donc, mais on vous attaque donc. Oh oui, madame, oh oui, on me poursuit, s'écria l'étrangère avec un indicible effroi. Alors, madame, réfléchissez à une chose, dit la princesse, c'est que cette maison est un couvent et non une forteresse. C'est que rien de ce qui agite les hommes n'y pénètre que pour s'éteindre. C'est que rien de ce qui peut les servir contre les autres hommes ne s'y trouve. Ce n'est point ici la maison de la justice, de la force et de la répression. C'est tout simplement la maison de Dieu. Oh, voilà, voilà ce que je cherche justement, dit Lorenza. Oui, c'est la maison de Dieu, car dans la maison de Dieu seulement je puis vivre en repos. Mais Dieu n'admet pas les vengeances. Comment voulez-vous que nous vous vengions de votre ennemi? Adressez-vous aux magistrats. Les magistrats ne peuvent rien, madame, contre celui que je redoute. Qui est-il donc? Fit la supérieure avec un secret et involontaire effroi. Lorenza se rapprocha de la princesse sous l'empire d'une mystérieuse exaltation. Ce qu'il est, madame, dit-elle, c'est, j'en suis certaine, un de ces démons qui font la guerre aux hommes et que Satan, leur prince, a doué d'une puissance surhumaine. Que me dites-vous là? Fit la princesse en regardant cette femme pour bien s'assurer qu'elle n'était pas folle. Et moi, oh malheureuse que je suis! S'écria Lorenza en tordant ses beaux bras qui semblaient moulés sur ceux d'une statue antique. Moi, je me suis trouvée sur le chemin de cet homme, et moi, je suis... Achevée, Lorenza se rapprocha encore de la princesse, puis tout bas et comme épouvantée elle-même de ce qu'elle allait dire, « Moi, je suis possédée, » murmura-t-elle. « Possédée ! » s'écria la princesse. « Voyons, madame, dites, êtes-vous dans votre bon sens, et ne seriez-vous point folle, n'est-ce pas ? C'est ce que vous voulez dire. Non, je ne suis pas folle, mais je pourrais bien le devenir si vous m'abandonnez. »« Possédée ! » répéta la princesse. « Hélas, hélas ! Mais permettez-moi de vous le dire, je vous vois en toutes choses semblable aux créatures les plus favorisées de Dieu. Vous paraissez riche, vous êtes belle, vous vous exprimez raisonnablement. Votre visage ne porte aucune trace de cette terrible et mystérieuse maladie qu'on appelle la possession. Madame, c'est dans ma vie, c'est dans les aventures de cette vie que réside le secret sinistre que je voudrais me cacher à moi-même. Expliquez-vous, voyons, suis-je donc la première à qui vous parlez de votre malheur, vos parents, vos amis ? Mes parents ! S'écria la jeune femme en croisant les mains avec douleur. Pauvres parents, les reverrai-je jamais ? Des amis ? Ajouta-t-elle avec amertume. Hélas, madame, est-ce que j'ai des amis ? Voyons, procédons par ordre, mon enfant, dit madame Louise, essayant de tracer un chemin aux paroles de l'étrangère. Quels sont vos parents, et comment les avez-vous quittés? Madame, je suis romaine, et j'habitais Rome avec eux. Mon père est de vieille noblesse, mais comme tous les patriciens de Rome, il est pauvre. J'ai de plus ma mère et un frère aîné. En France, m'a-t-on dit, lorsqu'une famille aristocratique comme l'est la mienne a un fils et une fille, on sacrifie la dot de la fille pour acheter l'épée du fils. Chez nous, on sacrifie la fille pour pousser le fils dans les ordres. Or, je n'ai, moi, reçu aucune éducation, parce qu'il fallait faire l'éducation de mon frère, qui étudie, comme disait naïvement ma mère, afin de devenir cardinal. Après, il en résulte, madame, que mes parents s'imposèrent tous les sacrifices qu'il était en leur pouvoir de s'imposer pour aider mon frère, et que l'on résolut de me faire prendre le voile chez les carmélites de Subiaco. Et vous, que disiez-vous ? Rien, madame. Dans ma jeunesse, on m'avait présenté cet avenir comme une nécessité. Je n'avais ni force ni volonté. On ne me consultait pas, d'ailleurs, on ordonnait, et je n'avais pas autre chose à faire que d'obéir. Cependant, madame, nous n'avons, nous autres filles romaines, que désir et impuissance. Nous aimons le monde comme les damnés aiment le paradis, sans le connaître. D'ailleurs, j'étais entouré d'exemples qui m'eussent condamné si l'idée m'était venue de résister, mais elle ne me vint pas. Toutes les amies que j'avais connues et qui, comme moi, avaient des frères, avaient payé leurs dettes à l'illustration de la famille. J'aurais été mal fondé à me plaindre. On ne me demandait rien qui sortît des habitudes générales. Ma mère me caressa un peu plus seulement quand le jour approcha pour moi de la quitter. Enfin, le jour où je devais commencer mon noviciat arriva, mon père réunit 500 écus romains destinés à payer ma dot au couvent, et nous partîmes pour Subiaco. Il y a 8 à 9 lieues de Rome à Subiaco, mais les chemins de la montagne sont si mauvais que 5 heures après notre départ, nous n'avions fait encore que 3 lieues. Cependant, le voyage, tout fatigant qu'il était en réalité, me plaisait. Je lui souriais comme à mon dernier bonheur, et tout le long du chemin, je disais tout bas adieu aux arbres, aux buissons, aux pierres, aux herbes desséchées même. Qui savait si là-bas, au couvent, il y avait de l'herbe, des pierres, des buissons et des arbres? Tout à coup, au milieu de mes rêves, et comme nous passions entre un petit bois et une masse de rochers crevassés, la voiture s'arrêta. J'entendis ma mère pousser un cri, mon père fit un mouvement pour saisir des pistolets, mes yeux et mon esprit retombèrent du ciel sur terre, nous étions arrêtés par des bandits. « Pauvre enfant !» dit madame Louise, qui prenait de plus en plus intérêt à ce récit. « Eh bien, vous le dirai-je, madame, je ne suis pas fort effrayé, car ces hommes nous arrêtaient pour notre argent, et l'argent qu'ils allaient nous prendre était destiné à payer ma dot au couvent. » S'il n'y avait plus de dot, mon entrée au couvent était retardée pour tout le temps qu'il faudrait à mon père pour en trouver une autre, et je savais la peine et le temps que ces 500 écus avaient coûté à réunir. Mais quand, après ce premier butin partagé, au lieu de nous laisser continuer notre route, les bandits s'élancèrent sur moi, quand je vis les efforts de mon père pour me défendre, quand je vis les larmes de ma mère pour les supplier, je compris qu'un grand malheur, qu'un malheur inconnu me menaçait, et je me mis à crier « miséricorde » par ce sentiment naturel qui vous porte à appeler au secours. Car je savais bien que j'appelais inutilement et que dans ce lieu sauvage, personne ne m'entendrait. Aussi, sans s'inquiéter de mes cris, des larmes de ma mère, des efforts de mon père, les bandits me lièrent les mains derrière le dos et, me brûlant de leurs regards hideux, que je compris alors tant la terreur me faisait clairvoyante, ils se mirent avec des dés qu'ils tirèrent de leur poche à jouer sur le mouchoir de l'un d'eux. Ce qui m'effraya le plus, c'est qu'il n'y avait point d'enjeu sur l'ignoble tapis. Pendant le temps que les dés passèrent de main en main, je frissonnais, car je compris que j'étais la chose qu'ils jouaient. Tout à coup, l'un d'eux, poussant un rugissement de triomphe, se leva, tandis que les autres blasphémaient en grinçant des dents, courut à moi, me saisit dans ses bras et posa ses lèvres sur les miennes. Le contact d'un fer rouge ne m'eût point fait pousser un cri plus déchirant. « Oh, la mort, mon Dieu !» m'écriai-je. Ma mère se roulait sur la terre, mon père s'évanouit. Je n'avais plus qu'un espoir, c'est que l'un ou l'autre des bandits qui avaient perdu me tuerait dans un moment de rage d'un coup de couteau qu'ils serraient dans leurs mains crispées. J'attendais le coup, je l'espérais, je l'invoquais. Tout à coup, un homme à cheval parut dans le sentier. Il avait parlé bas à l'une des sentinelles qu'il avait laissé passer en échangeant un signe avec lui. Cet homme de taille moyenne, d'une physionomie imposante, d'un coup d'œil résolu, continua de s'avancer, calme et tranquille, au pas ordinaire de son cheval. Arrivé en face de moi, il s'arrêta. Le bandit, qui déjà m'avait prise dans ses bras et qui commençait à m'emmener, se retourna au premier coup de sifflet que cet homme donna dans le manche de son fouet. Le bandit me laissa glisser jusqu'à terre. « Viens ici, » dit l'inconnu, et comme le bandit hésitait, l'inconnu forma un angle avec son bras, posa deux doigts écartés sur sa poitrine. Et comme si ce signe eût été l'ordre d'un maître tout-puissant, le bandit s'approcha de l'inconnu. Celui-ci se pencha à l'oreille du bandit et tout bas prononça ce mot « Mac ». Il ne prononça que ce seul mot, j'en suis sûr, moi qui regardais comme on regarde le couteau qui va vous tuer, moi qui écoutais comme on écoute quand la parole qu'on attend doit être la mort ou la vie. « Benac, » répondit le brigand. Puis, dompté comme un lion et rugissant comme lui, il revint à moi, détacha la corde qui me liait les poignets et alla en faire autant à mon père et à ma mère. Alors, comme l'argent était déjà partagé, chacun vint à son tour déposer sa part sur une pierre. Pas un écu ne manqua aux 500 écus. Pendant ce temps, je me sentais revivre au bras de mon père et de ma mère. « Maintenant, allez !» dit l'inconnu aux bandits. Les bandits obéirent et rentrèrent dans le bois jusqu'au dernier. « Lorenza Feliciani, » dit alors l'étranger en me couvrant de son regard surhumain, « continue ta route maintenant, tu es libre. » Mon père et ma mère remerciaient l'étranger qui me connaissait et que nous ne connaissions pas à nous. Puis ils remontèrent dans la voiture. Je les suivis comme à regret car je ne sais quelle puissance étrange, irrésistible, m'attirait vers mon sauveur. Lui était resté immobile à la même place comme pour continuer de nous protéger. Je l'avais regardé tant que j'avais pu le voir, et ce n'est que lorsque je l'eus perdu de vue tout à fait que l'oppression qui serrait ma poitrine disparut. 2 heures après, nous étions à Subiaco. « Mais quel était donc cet homme extraordinaire ?» demanda la princesse, émue de la simplicité de ce récit. « Daignez encore m'écouter, madame, » dit Lorenza. « Hélas, tout n'est pas fini. »« J'écoute, » dit madame Louise. La jeune femme continua. « Nous arrivâmes à Subiaco 2 heures après cet événement. Pendant toute la route, nous n'avions fait que nous entretenir, mon père, ma mère et moi, de ce singulier sauveur qui nous était venu tout à coup, mystérieux et puissant, comme un envoyé du ciel. Mon père, moins crédule que moi, le soupçonnait chef d'une de ces bandes qui, bien que divisées en fragments autour de Rome, relèvent de la même autorité et sont inspectées de temps en temps par le chef suprême, lequel, investi d'une autorité absolue, récompense, punit et partage. Mais moi qui cependant ne pouvais lutter d'expérience avec mon père, moi qui obéissais à mon instinct, qui subissais le pouvoir de ma reconnaissance, je ne croyais pas, je ne pouvais pas croire que cet homme fût un bandit. Aussi, dans mes prières de chaque soir à la Vierge, je consacrais une phrase destinée à appeler les grâces de la Madone sur mon sauveur inconnu. Dès le même jour, j'entrai au couvent. La dot était retrouvée, rien n'empêchait qu'on ne m'y reçût. J'étais plus triste, mais aussi résigné que jamais. Italienne et superstitieuse, cette idée m'était venue que Dieu tenait à me posséder pur, entière et sans tache, puisqu'il m'avait délivré de ces bandits, suscités sans doute par le démon pour souiller la couronne d'innocence que Dieu seul devait détacher de mon front. Aussi m'élançais-je avec toute l'ardeur de mon caractère dans les empressements de mes supérieurs et de mes parents. On me fit adresser une demande au souverain pontife à l'effet de me voir dispenser du noviciat. Je l'écrivis, je la signai. Elle avait été rédigée par mon père dans les termes d'un si violent désir que sa sainteté crut voir dans cette demande l'ardente aspiration d'une âme dégoûtée du monde vers la solitude. Elle accorda tout ce qu'on lui demandait et le noviciat d'un an, de 2 ans quelquefois pour les autres, fut par faveur spéciale fixé pour moi à 1 mois. On m'annonça cette nouvelle qui ne me causa ni douleur ni joie. On eût dit que j'étais morte au monde et que l'on opérait sur un cadavre auquel son ombre impassible survivait seul. 15 jours, on me tint renfermé, de crainte que l'esprit mondain me vînt saisir. Vers le matin de ce 15e jour, je reçus l'ordre de descendre à la chapelle avec les autres sœurs. En Italie, les chapelles des couvents sont des églises publiques. Le pape ne croit pas sans doute qu'il soit permis à un prêtre de confisquer Dieu en quelque endroit qu'il se manifeste à ses adorateurs. J'entrai dans le chœur et je pris ma stalle. Il y avait entre l'étoile verte qui fermait les grilles de ce chœur, ou plutôt qui affectait de les fermer, il y avait, dis-je, un espace assez grand pour que l'on distinguât la nef. Je vis par cet espace donnant pour ainsi dire sur la terre un homme demeuré seul, debout, au milieu de la foule prosternée. Cet homme me regardait, ou plutôt me dévorait des yeux. Je sentis alors cet étrange mouvement de malaise que j'avais déjà éprouvé, cet effet surhumain qui m'attirait, pour ainsi dire, hors de moi-même, comme à travers une feuille de papier, une planche, un plat même. J'avais vu mon frère attirer une aiguille avec un fer aimanté. Hélas, vaincu, subjugué, sans force contre cette attraction, je me penchai vers lui, je joignis les mains comme on les joint devant Dieu, et des lèvres et du cœur à la fois, je lui dis « Merci, merci ». Mes sœurs me regardèrent avec surprise, elles n'avaient rien compris à mon mouvement, rien compris à mes paroles, elles suivirent la direction de mes mains, de mes yeux, de ma voix, elles se haussaient sur leur stalle pour regarder à leur tour dans la nef, je regardais aussi en tremblant, l'étranger avait disparu. Elles m'interrogèrent, mais je ne pus que rougir, pâlir et balbutier. « Depuis ce moment, madame, s'écria Lorenza avec désespoir, depuis ce moment, je suis au pouvoir du démon. »« Je ne vois rien de surnaturel en tout cela, cependant, ma sœur, » répondit la princesse avec un sourire. « Calmez-vous donc et continuez. »« Oh, parce que vous ne pouvez pas sentir ce que j'éprouvais, moi, qu'éprouvâtes-vous ? » La possession tout entière, mon cœur, mon âme, ma raison, le démon possédait tout. « Ma sœur, j'ai bien peur que ce démon ne fût l'amour, » dit Madame Louise. « Oh, l'amour ne m'eût point fait souffrir ainsi, l'amour ne m'eût point oppressé le cœur, l'amour n'eût point secoué tout mon corps comme le vent d'orage fait d'un arbre, l'amour ne m'eût pas donné la mauvaise pensée qui me vint. » « Dites cette mauvaise pensée, mon enfant. J'aurais dû tout avouer à mon confesseur, n'est-ce pas, madame ?»« Sans doute. » Eh bien, le démon qui me possédait me souffla tout bas, au contraire, de garder le secret. Pas une religieuse, peut-être, n'était entrée dans le cloître sans laisser dans le monde qu'elle abandonnait un souvenir d'amour. Beaucoup avaient un nom dans le cœur en invoquant le nom de Dieu. Le directeur était habitué à de pareilles confidences. Eh bien, moi, si pieuse, si timide, si candidement innocente, moi qui, ayant fait ce fatal voyage de Subiaco, n'avais jamais échangé une seule parole avec un autre homme que mon frère, moi qui, depuis lors, n'avais croisé que deux fois mon regard avec l'inconnu, je me figurais, madame, qu'on m'attribuerait avec cet homme une de ces intrigues qu'avant de prendre le voile, chacune de nos sœurs avait eues avec leurs regrettés amants. « Mauvaise pensée, en effet, dit madame Louise, mais c'est encore un démon bien innocent que celui qui n'inspire à la femme qu'il possède que de semblables pensées. Continuez. » Le lendemain, on me demanda au parloir. Je descendis, je trouvai une de mes voisines de la Via Frattina à Rome, jeune femme qui me regrettait beaucoup parce que chaque soir nous causions et chantions ensemble. Derrière elle, auprès de la porte, un homme enveloppé d'un manteau l'attendait comme eût fait un valet. Cet homme ne se tourna point vers moi. Cependant, moi, je me tournai vers lui. Il ne me parla point, et cependant, je le devinais, c'était encore mon protecteur inconnu. Le même trouble que j'avais déjà éprouvé se répandit dans mon cœur. Je me sentis tout entière envahi par la puissance de cet homme. Sans les barreaux qui me retenaient captive, j'eusse bien certainement été à lui. Il y avait dans l'ombre de son manteau des rayonnements étranges qui m'éblouissaient. Il y avait dans son silence obstiné des bruits entendus de moi seul et qui me parlaient une langue harmonieuse. Je pris sur moi-même toute la puissance que je pouvais avoir et demandai à ma voisine de la Via Frattina quel était cet homme qui l'accompagnait. Elle ne le connaissait point, son mari devait venir avec elle, mais au moment de partir, il était rentré accompagné de cet homme et lui avait dit « Je ne puis te conduire à Subiaco, mais voici mon ami qui t'accompagnera ». Elle n'en avait pas demandé davantage, tant elle avait envie de me revoir, et elle était venue en compagnie de l'inconnu. Ma voisine était une sainte femme. Elle vit dans un coin du parloir une madone qui avait la réputation d'être fort miraculeuse. Elle ne voulut point sortir sans y avoir fait sa prière. Elle alla s'agenouiller devant elle. Pendant ce temps, l'homme entra sans bruit, s'approcha lentement de moi, ouvrit son manteau et plongea ses regards dans les miens comme il eût fait de deux rayons ardents. J'attendais qu'il parlât, ma poitrine se soulevait, pour ainsi dire, montant comme une vague au-devant de sa parole, mais il se contenta d'étendre ses deux mains au-dessus de ma tête et les approchant de la grille qui nous séparait. Aussitôt, une extase inouïe s'empara de moi. Il me souriait. Je lui rendis son sourire, tout en fermant les yeux, comme écrasé sous une langueur infinie. Pendant ce temps, comme s'il n'avait pas désiré autre chose que de s'assurer de sa puissance sur moi, il disparut. À mesure qu'il s'éloignait, je reprenais mes sens. Cependant, j'étais encore sous l'empire de cette étrange hallucination quand ma voisine de la Via Frattina, ayant achevé sa prière, se releva, prit congé de moi, m'embrassa et sortit à son tour. En me déshabillant le soir, je trouvai sous ma guimpe un billet qui contenait seulement ces trois lignes. « À Rome, celui qui aime une religieuse est puni de mort. Donnerez-vous la mort à qui vous devez la vie ?» De ce jour, madame, la possession fut complète, car je mentis à Dieu en ne lui avouant pas que je songeais à cet homme autant et plus qu'à lui. Lorenza, effrayée elle-même de ce qu'elle venait de dire, s'arrêta pour interroger la physionomie si douce et si intelligente de la princesse. « Tout cela n'est point possession, dit madame de France avec fermeté. C'est une malheureuse passion, je vous le répète et je vous l'ai dit. Des choses du monde ne doivent point entrer jusqu'ici, sinon à l'état de regret. » Des regrets, madame, s'écria Lorenza. Quoi, vous me voyez en larmes, en prière, vous me voyez à genoux, vous suppliant de me soustraire au pouvoir infernal de cet homme, et vous me demandez si j'ai des regrets. Oh, plus que des regrets, j'ai des remords. Cependant, jusqu'à 7 heures, dit Madame Louise. Attendez, attendez jusqu'au bout, fit Lorenza, et alors ne me jugez pas trop sévèrement, je vous en supplie, madame. L'indulgence et la douceur me sont recommandées, et je suis aux ordres de la souffrance. Ah, merci, oh merci, vous êtes véritablement l'ange consolateur que j'étais venu chercher. Nous descendions à la chapelle 3 jours par semaine. À chacun de ces offices, l'inconnu assista. J'avais voulu résister, j'avais dit que j'étais malade, j'avais résolu que je ne descendrais point. Faiblesse humaine, quand venait l'heure, je descendais malgré moi, et comme si une force supérieure à ma volonté m'eût poussé. Alors, s'il n'était point arrivé, j'avais quelques instants de calme, de bien-être, mais à mesure qu'il approchait, je le sentais venir, j'aurais pu dire, il est à 100 pas, il est au seuil de la porte, il est dans l'église, et cela sans regarder de son côté. Puis, dès qu'il était arrivé à sa place accoutumée, mes yeux fussent-ils fixés sur mon livre de prière pour l'invocation la plus sainte, mes yeux se détournaient pour s'arrêter sur lui. Alors, si longtemps que se prolongea l'office, je ne pouvais plus lire ni prier. Toute ma pensée, toute ma volonté, toute mon âme était dans mes regards, et tous mes regards étaient pour cet homme qui, je le sentais bien, me disputait à Dieu. D'abord, je n'avais pu le regarder sans crainte, ensuite, je le désirais, enfin, je courus avec la pensée au-devant de lui, et souvent, comme on voit dans un songe, il me semblait le voir dans la rue ou le sentir passer sous ma fenêtre. Cet état n'avait point échappé à mes compagnes. La supérieure fut avertie, elle prévint ma mère. 3 jours avant celui où je devais prononcer mes vœux, je vis entrer dans ma cellule les 3 seuls parents que j'eusse au monde, mon père, ma mère, mon frère. Ils venaient pour m'embrasser encore une fois, disait-il, mais je vis bien qu'ils avaient un autre but, car, restés seuls avec moi, ma mère m'interrogea. Dans cette circonstance, il est facile de reconnaître l'influence du démon, car au lieu de le lui dire, comme j'eusse dû le faire, je niais tout obstinément. Le jour où je devais prendre le voile était venu, au milieu d'une étrange lutte que je soutenais en moi-même, désirant et redoutant l'heure qui me donnerait tout entière à Dieu, et sentant bien que si le démon avait quelque tentative suprême à faire sur moi, ce serait à cette heure solennelle qu'il essaierait. « Et cet homme étrange ne vous avait pas écrit depuis la première lettre que vous trouvâtes dans votre guimpe ?» demanda la princesse. « Jamais, madame. À cette époque, vous ne lui aviez jamais parlé. Jamais, sinon mentalement, ni écrit. Ah, jamais. Continuez. Vous en étiez le jour où vous prîtes le voile. » Ce jour-là, comme je le disais à votre Altesse, je devais enfin voir finir mes tortures, car tout mêlé qu'il était d'une douceur étrange, c'était un supplice inimaginable pour une âme restée chrétienne que l'obsession d'une pensée, d'une forme toujours présente et imprévue, toujours railleuse par l'à-propos qu'elle mettait à m'apparaître juste dans les moments de lutte contre elle et par son obstination à me dominer alors invinciblement. Aussi, il y avait des moments où j'appelais cette heure sainte de tous mes vœux. Quand je serai à Dieu, me disais-je, Dieu saura bien me défendre, comme il m'a défendu lors de l'attaque des bandits. J'oubliais alors que, lors de l'attaque des bandits, Dieu ne m'avait défendu que par l'entremise de cet homme. Cependant, l'heure de la cérémonie était venue. J'étais descendu à l'église, pâle, inquiète, et cependant moins agité que d'habitude. Mon père, ma mère, mon frère, cette voisine de la Via Fratina qui m'était venue voir, tous nos autres amis étaient dans l'église. Tous les habitants des villages voisins étaient accourus, car le bruit s'était répandu que j'étais belle. Et une belle victime, dit-on, est plus agréable au Seigneur. L'office commença. Je le hâtai de tous mes vœux, de toutes mes prières, car il n'était pas dans l'église, et je me sentais, lui absent, assez maîtresse de mon libre arbitre. Déjà le prêtre se tournait vers moi, me montrant le Christ auquel j'allais me consacrer, Déjà j'étendais les bras vers ce seul et unique sauveur donné à l'homme, quand le tremblement habituel qui m'annonçait son approche commença d'agiter mes membres, quand le coup qui comprimait ma poitrine m'indiqua qu'il venait de mettre le pied sur le seuil de l'église, quand enfin l'attraction irrésistible amena mes yeux du côté opposé à l'autel, quelques efforts qu'ils fissent pour rester fidèles au Christ. Mon persécuteur était debout, près de la chaire, et plus appliqué que jamais à me regarder. Depuis ce moment, je lui appartenais. Plus d'office, plus de cérémonie, plus de prière. Je crois que l'on me questionna selon le rite, mais je ne répondis pas. Je me souviens que l'on me tira par le bras et je vacillais comme une chose inanimée que l'on déplace de sa base. On me montra des ciseaux sur lesquels un rayon de soleil venait refléter son éclair terrible. L'éclair ne me fit pas sourciller. Un instant après, je sentis le froid du fer sur mon cou, le grincement de l'acier dans ma chevelure. En ce moment, il me sembla que toutes les forces me manquaient, que mon âme s'élançait de mon corps pour aller à lui, et je tombais étendu sur la dalle, non pas, chose étrange, comme une personne évanouie, mais comme une personne prise de sommeil. J'entendis un grand murmure, puis je devins sourde, muette, insensible. La cérémonie fut interrompue avec un épouvantable tumulte. La princesse joignit les mains avec compassion. « N'est-ce pas, dit Lorenza, que c'est là un terrible événement, et dans lequel il est facile de reconnaître l'intervention de l'ennemi de Dieu et des hommes ?»« Prenez garde, dit la princesse avec un accent de tendre compassion, prenez garde, pauvre femme, je crois que vous avez trop de pente à attribuer au merveilleux ce qui n'est que l'effet d'une faiblesse naturelle. » En voyant cet homme, vous êtes évanoui, et voilà tout, il n'y a rien d'autre. Continuez. « Oh, madame, madame, ne dites pas cela !» s'écria Lorenza, « ou du moins attendez pour porter un jugement que vous ayez tout entendu. Rien de merveilleux, continua-t-elle, mais alors, n'est-ce pas, je fusse revenu à moi 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure après mon évanouissement. Je me serais entretenu avec mes sœurs, j'aurais repris courage et foi parmi elles. » « Sans doute, dit madame Louise, eh bien, n'est-ce pas ainsi que la chose est arrivée ?»« Madame, dit Lorenza d'une voix sourde et accélérée, lorsque je reviens à moi, il faisait nuit. Un mouvement rapide et saccadé me fatiguait depuis quelques minutes. Je soulevais ma tête, croyant être sous la voûte de la chapelle et sous les rideaux de ma cellule. Je vis des rochers, des arbres, des nuages. Puis, au milieu de tout cela, je sentais une haleine tiède qui me caressait le visage. » Je crus que la sœur infirmière me prodiguait ses soins, et je voulus la remercier. Madame, ma tête reposait sur la poitrine d'un homme, et cet homme était mon persécuteur. Je portais les yeux et les mains sur moi-même pour m'assurer si je vivais, ou du moins si je veillais. Je poussais un cri. J'étais vêtu de blanc, j'avais sur le front une couronne de roses blanches, comme une fiancée ou comme une morte. La princesse poussa un cri. Lorenza laissa tomber sa tête dans ses mains. Le lendemain, continua en sanglotant Lorenza, le lendemain, je vérifiai le temps qui s'était écoulé. Nous étions au mercredi. J'étais donc resté pendant 3 jours sans connaissance. Pendant ces 3 jours, j'ignore entièrement ce qui s'est passé.